Chérie, l'invité du vendredi.
Et aujourd'hui sur Chérie FM Vallée du Rhône, on accueille un spécialiste français des virus, plus spécifiquement spécialiste de la grippe, mais ce vendredi on va évidemment s'intéresser au coronavirus. Avec vous, Bruno Lina. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Vous êtes virologue à Lyon. Vous êtes également membre du conseil scientifique qui entoure en ce moment le gouvernement, qui en a beaucoup besoin. Avant de parler de l'épidémie, est-ce qu'on peut présenter un petit peu votre travail de virologue ? En quoi ça consiste exactement, le métier de virologue ?
Actuellement, le métier de virologue consiste pour la moitié du temps de la plupart des virologues, mais pour 100% du mien, de s'occuper du diagnostic des infections à coronavirus et de leur suivi. Beaucoup de virologues travaillent actuellement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça fait partie peut-être de la face cachée de l'activité très intense autour du coronavirus. Et personnellement, enfin, je le dis à chaque fois, je tire mon chapeau à l'ensemble des virologues de France qui font un travail formidable.
Alors ça fait quelques jours, professeur, qu'on commence à parler d'amélioration sur le front de l'épidémie, même s'il faut évidemment rester très prudent. Est-ce que vous le constatez, vous, en tant que virologue, que ce soit au niveau national ou régional ?
Alors très objectivement, au niveau national, comme ça a pu être dit par le directeur général de la Santé et par le ministre de la Santé, on est dans une phase de décroissance qui semble s'amorcer de façon relativement consolidée. Ce que l'on observe pour l'instant, c'est une diminution de la fréquence des nouveaux cas. Le nombre d'infections observées est en baisse de façon assez significative. C'est ce qu'on appelle le taux d'incidence, et c'est en lien direct avec le R0. Celui-ci étant devenu inférieur à 1, on a moins de cas dans les jours qui suivent, parce que la transmission se fait de moins en moins bien, ce qui est très bien, parce que ça va permettre de soulager le système. En revanche, comme il y a un délai d'incubation et comme il y a un délai d'apparition des formes graves, on voit que pour les hôpitaux, on est actuellement plutôt sur le sommet de la vague, il n'y a pas encore de décroissance, et pour la réanimation, c'est aussi extrêmement tôt pour dire qu'on a une décroissance. On est avec des taux d'hospitalisation et d'admission en réanimation qui sont extrêmement élevés, et donc il est surtout très important de maintenir dans la durée cette décroissance du nombre de cas pour que l'on puisse faire sortir l'ensemble de ces personnes qui sont dans les hôpitaux et qu'on puisse retrouver une activité hospitalière normale, parce que il y a encore beaucoup de travail de ce point de vue-là, et je pense que avant qu'on retrouve des taux d'admission dans les hôpitaux qui soient à la hauteur de ce qui était observé, je dirais au début du mois de juin par exemple, eh bien il risque de se passer encore au moins 4 à 5 semaines.
D'ailleurs, le gouvernement entend envisager des mesures au moins jusqu'à l'été prochain. On parle d'ailleurs beaucoup de troisième vague suite à cette seconde vague. Est-ce qu'il faut s'attendre à une troisième vague et peut-être, pourquoi pas, également à des vagues successives dans les prochains mois ou les prochaines années ?
Eh ben c'est tout l'enjeu de ce que justement on va essayer de mettre en place à la sortie de cette période de confinement. L'expérience de la période de juin, juillet, août nous montre que si on a une libération entre guillemets trop importante de l'ensemble de l'activité et des contacts sociaux, eh bien on risque de se retrouver dans une situation difficile assez rapidement. Et il faut bien comprendre que ce qui a pris 3 mois pendant l'été risque d'être beaucoup plus court pendant l'hiver, l'hiver étant une période où ces virus respiratoires se transmettent de façon beaucoup plus importante. Donc au bout du compte, c'est justement par un bon équilibre entre la reprise de la vie avec une tendance vers la normalité, mais qui ne sera pas normale, et le maintien d'un certain nombre de mesures de distanciation physique, de distanciation sociale même, et de l'application des mesures barrières, qui nous permettront d'avoir une circulation à bas bruit du virus, et donc d'éviter d'avoir à refaire des efforts aussi importants que celui du confinement du fait d'une recirculation massive du virus. Nous avons les atouts, on sait ce qu'il faut faire, on a les moyens de le faire, mais c'est forcément un effort collectif, et cet effort collectif n'a pas été un succès durant le mois de septembre.
Alors, on comprend bien, professeur, et vous l'avez dit très clairement, qu'il faudra maintenir les gestes barrières même une fois que l'épidémie sera derrière nous.
En pratique, si vous voulez, toute la période hivernale va être une période compliquée. Et cette période hivernale, elle va jusqu'à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Je pense que dans cette période-là, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant, qu'on utilise les indicateurs qui vont nous dire si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien, et que qu'on soit en capacité de réagir très rapidement si jamais il se passe des événements qui suggèrent une reprise, peut-être à bas bruit dans un premier temps, de la circulation du virus. Mais l'enjeu aujourd'hui est d'arriver à faire comprendre et appliquer peut-être de façon beaucoup plus sévère, je dirais, mais aussi de beaucoup plus volontaire, ce qu'on appelle l'isolement, c'est-à-dire lorsque l'on est identifié comme contaminé, eh bien se soustraire à l'ensemble des contacts sociaux de façon à casser les chaînes de transmission. Ce virus ne se transmet que d'un infecté vers un non-infecté. Donc si les personnes qui sont identifiées infectées s'appliquent une hygiène qui fait qu'elles vont être moins en contact ou plus du tout en contact, ce qui est l'idéal, avec d'autres personnes qui ne sont pas infectées, eh bien à ce moment-là, on maîtrisera la circulation du virus et ce sera beaucoup plus simple.
Est-ce qu'on va pouvoir passer, selon vous, des fêtes de Noël, de fin d'année en famille, évidemment dans les conditions un peu restreintes, mais est-ce que malgré tout on peut entrevoir des bonnes nouvelles pour cette période de fête qui est aussi très importante pour les Français, notamment au moment de la convivialité
Bien sûr, mais là c'est très difficile de vous donner une réponse avec des certitudes parce que ça va dépendre beaucoup de ce qui va se passer dans les 3 semaines qui viennent. En pratique, ce que l'on voit, c'est qu'on est sur une pente qui est très positive, donc on va avoir un effet d'amélioration globale, mais cet effet d'amélioration, il est transitoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on capitalise pour que on ne reprenne pas une dynamique épidémique à la suite. Donc la réponse que l'on aura pour la période de Noël et des fêtes va directement être liée au niveau de baisse qu'on aura réussi à avoir jusque à peu près le 15 décembre. Parce que c'est vraiment là que se trouvera l'indicateur nous permettant de dire voilà ce qu'il est raisonnable de faire, voilà ce qu'il n'est pas raisonnable de faire. Aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter à une telle distance. Ça dépend de très nombreux facteurs et ce qui est important, c'est de bien comprendre aussi que ce que l'on fait maintenant a un impact direct sur ce qui se passera dans 15 jours, 3 semaines.
D'où l'importance évidemment, professeur, vous l'avez rappelé, de maintenir la distanciation sociale et l'ensemble des gestes barrières. En attendant justement, la course au vaccin se poursuit, on a parlé beaucoup cette semaine de Pfizer et de Moderna. Qu'est-ce que vous pensez de cette course un peu effrénée au vaccin ? Est-ce que ça vous perturbe d'une manière ou d'une autre dans votre travail de virologue ?
Alors, ça ne me perturbe pas. C'est-à-dire que, globalement, il faut quand même prendre ces nouvelles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire d'excellentes nouvelles. Il faut voir que c'est un vaccin que l'on a pu développer avec des sociétés qui sont quand même des structures qui sont robustes en termes de développement de vaccins et qui, en moins d'un an, ont réussi à nous proposer des solutions vaccinales qui vont peut-être pouvoir être utilisées au cours de l'année 2021. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut bien voir qu'il y a d'autres pathogènes pour lesquels, malgré des années et des années de recherche, on n'a jamais réussi à faire un vaccin. Imaginez que l'ensemble des résultats des industriels soit le vaccin protège à 20%. Ça, ce serait une mauvaise nouvelle, parce que ça signifierait que l'ensemble des actions que l'on a actuellement pour freiner la diffusion des virus, il va falloir les maintenir dans la durée très longtemps. Clairement, l'apparition de ces vaccins, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir la seule chose qui va contrôler la circulation du virus, c'est l'immunité collective. Et cette immunité collective, il n'y a que deux façons de l'avoir. Soit avec des infections qui vont durer jusqu'à ce qu'on ait 65% de la population française qui soit infectée, en sachant que ça correspondra à un coût en termes de vie et en termes de morbidité extrêmement élevé. Soit on va s'appuyer, et c'est probablement ce qu'il va falloir faire, sur une vaccination qui va permettre de capitaliser sur l'immunité collective que l'on a déjà atteint, qui est de l'ordre de en moyenne en France, de l'ordre de 12 à 15%. Vous voyez, donc on est très, très loin des 65. Mais si on arrive à développer une immunité collective avec le vaccin, à ce moment-là, la circulation du virus va baisser extrêmement rapidement et donc il est possible, si on arrive à faire cette vaccination avant l'hiver prochain, que l'on n'ait pas besoin de l'ensemble des mesures que l'on a aujourd'hui pour l'hiver prochain. Il va falloir que l'on ait en quelque sorte une politique de vaccination qui nous permettra d'avoir une explication claire autour de ce que sont ces vaccins, de ce qui ne sont pas, le taux de protection qu'il faut avoir, quelles sont les populations qu'il faut vacciner de façon préférentielle, exactement un petit peu comme le message que l'on a pour la vaccination contre la grippe, et puis d'expliquer aux gens aussi que ça permettra d'avoir un effort collectif, une action civique en quelque sorte, pour contrôler la circulation de ce virus et éviter des décès.
Alors à chaque événement, son lot de théories, plus ou moins fantaisistes, hein, quand il y a des attentats, quand il y a des décès de personnalités, on a toujours des personnes qui justement parlent de théories un peu différentes et malheureusement le coronavirus n'échappe pas à la règle. On lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, il y a eu un documentaire qui a fait beaucoup parler qui s'appelle Hold Up. Comment vous analysez justement vous en tant que professionnel ces différentes théories autour du coronavirus?
Je pense que, alors d'abord je n'ai pas vu ce pseudo-documentaire, j'en ai entendu parler, j'en ai vu quelques extraits qui sont assez affligeants. Je pense qu'il y a, dans ce qui est disponible sur Internet, beaucoup de choses qui sont des choses validées et réelles, et beaucoup de choses qui ne le sont pas. Il faut donc regarder cela avec beaucoup de prudence. Toute question posée est légitime, hein, bien sûr, mais à un moment donné, il faut admettre que quand on apporte des réponses consolidées, il n'est pas forcément nécessaire de continuer à poser la question, puisque ça veut dire que la réponse est donnée. Hein. Donc moi, j'engage surtout à essayer de retrouver sur Internet les informations qui sont consolidées, qui sont robustes, qui vous sont fournies par des gens qui sont a priori dignes de confiance et qui ont surtout une connaissance du sujet qui n'est pas une connaissance autoproclamée mais une connaissance acquise tout simplement parce qu'il y a une formation qui a été faite sur le sujet.
Et parce qu'ils travaillent autour du virus et que c'est leur métier comme vous par exemple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Bruno Lina, virologue à Lyon et membre du conseil scientifique. On vous laisse, on imagine, et vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez beaucoup de travail. Merci à vous professeur.
Merci.